Le pardon, si vous voulez, quand on parle des autres, ça pose donc le problème du mal, le mal absolu. Et j'ai entendu que vous avez réfléchi, qu'est-ce que c'est que le mal, qu'est-ce que c'est que qu'on appelle crime, c'est crime ici, crime là-bas, ou là. Mais je pense que nous sommes tous de l'espèce humaine. Le mal absolu, le mal qui regarde le Seigneur, le mal devant qui nous ne devons pas nous incliner, mais nous redresser et faire appel à ce Père, c'est le mal qui déshumanise. C'est le mal qui veut tuer l'humain dans l'homme. C'est ça, le mal absolu. Ce mal-là, il se trouve dans notre société. C'est-à-dire, quand on réduit un immigré à être un immigré. Quand on réduit un chômeur à être un chômeur. Quand on prend une femme pour l'objet de plaisir. C'est le mal qui déshumanise. C'est le mal qui tue l'humain. Et à ce mal-là, c'est là c'est que le pardon doit être en face. Et ce mal-là, c'est un défi, c'est un grand défi théologique et un grand défi philosophique que l'homme n'a pas terminé de relever. Et aucune grande tradition spirituelle ne peut prétendre qu'ils ont des solutions face à ce mal-là. Il suffit de regarder notre monde actuel, l'Irak, la Palestine, l'Israël. Bon. Donc, il y a quelque chose, ce que je voulais dire, en fin de compte, que le pardon, finalement, c'est un pardon sans pouvoir. C'est un don de notre Dieu, si vous êtes chrétien comme moi. C'est un don de notre Dieu, et arrêtons de dire qu'il est de notre volonté. Arrêtons de dire cela. Il n'est pas de notre volonté. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse le temps aux questions. Vous avez une vingtaine de minutes si vous voulez que je revienne sur tel ou tel point précis. Merci. Oui.
Et qu'elle a été bonne avec
nous. Oui.
C'est un cas positif dans tous les malheurs que nous
avons. Oui. Vous savez que l'être humain n'est pas foncièrement mauvais et pas foncièrement bon. Nous sommes faits comme ça. Le bon et le mauvais, il n'est pas comme le noir et le blanc. De temps en temps, il y a du gris. Que parfois, certaines personnes oublient ça. Qu'on ne peut pas faire une séparation nette de quelque chose. Quoi. Ouais. Et cette personne-là, j'ai essayé de la rencontrer, mais je ne sais plus où elle est passée. Je n'ai plus arrivé à la retrouver lors de mes 3 voyages. Oui? Ah, d'accord, parce qu'il y a un débat.
Il y a quelqu'un qui demande la parole.
Allez, déplacez le micro.
Si vous voulez venir, c'est pas loin.
Les Khmers rouges avaient-ils conscience de leur karma dont on a tant parlé?
Bien sûr, ils savent ce que c'est que le karma. Et il y a un film qui est sorti, un documentaire qui a été commandé par Arte, il est sorti en 2004. Qui parle justement de ces anciens Khmers rouges qui vivent très mal. Vous voyez? Et parce qu'ils ont entendu parler des karma qui se sont convertis au christianisme pour effacer un peu ces karma.
Vous n'avez-vous pas annulé leur karma, c'est-à-dire devenir neutre complètement après?
Maintenant, je veux dire. Alors là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, c'est que. Il y a des grands chefs, bien sûr, hein? Les grands chefs, les grands responsables, ceux-là sont les grands responsables, mais ils se tirent toujours d'affaire parce qu'ils sont très riches. Ce sont eux qui exploitent les pierres précieuses à Palin, actuellement. Hein? Après, il y a des petits, les petits, ceux qui ont là endoctriné. Les Khmers rouges, les plus violents, ce sont les jeunes qui se situent entre 14 et 20 ans. C'est là, tuer, c'est un jeu. Oui. À ce moment-là, ils sont entraînés. Tuer, c'est un jeu. Et puis, il y a aussi des collaborateurs. Attention, quelque chose n'arrive pas comme ça s'il n'y a pas un accord quelque part du peuple lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Alors là, il faut nous méfier de juger les gens. Parce que moi, j'ai été dans ce camp, j'ai souffert beaucoup de la faim et la tentation est grande. La tentation est grande de dénoncer quelqu'un pour avoir un bol de riz de plus. Vous voyez? Ou de rentrer en bonne grâce avec un chef pour avoir quelque chose de plus. Cette tentation-là, je l'ai eue, comme tout le monde. Mais vous savez, quand j'étais dans le camp, je n'étais pas encore chrétienne, ni je ne connaissais pas l'Évangile. Mais je crois que dans des occasions comme ça, ce n'est pas un raisonnement qui peut tenir. C'est plutôt ce qui nous sommes. Au plus profond, c'est notre être qui va réagir. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est-à-dire, je me dis que ce gouvernement, on appelle ça le gouvernement Khmer Rouge, on appelle l'ANCA. ANCA, ça veut dire l'institution. Alors, cette organisation, cette institution a tué tous les miens. Et on fait de moi une sans domicile dans mon propre pays. J'ai ressenti envers eux une haine immense. Une haine immense, et j'ai dit que je ne veux rien faire avec toi. Oui. Je ne veux rien avoir d'eux. Et je ne veux rien. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans le plan. Voilà. C'est ce qui fait que je n'ai jamais dénoncé personne. Mais vous savez, quand on a faim, on a des limites. Ça. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est cette haine aussi, finalement, qui m'a sauvé la vie. Par exemple, au bout de la première année, on a ce qu'on appelle l'éducation politique, c'est-à-dire le soir. Voilà, ça se passe notre journée. On se lève à 4 heures du matin, on part travailler, on ne sait pas où. On nous distribue une soupe à midi, et quand le soleil se couche, on rentre. Bon, le soleil se couche très vite en Asie, vers 6 heures, 5h30, 6 heures, il faut rentrer. On rentre, on mange rapidement, après nous avons les cours politiques. Les cours politiques, ça dépend de la forme du camarade formateur. Si en forme, ça peut durer jusqu'à minuit. Voilà. Et là, vous n'avez pas intérêt à vous assoupir. Si vous fermez les yeux, il va dire, toi là-bas, qu'est-ce que je viens de dire? Si vous n'arrivez pas à répéter mot par mot, ben, vous sortez et c'est terminé. On appelle ça, dans ma langue khmer, bat kloun. Ça veut dire plus de corps. Voilà. Et pendant la première année, dans les cours politiques, le camarade formateur dit, est-ce qu'il y a encore des intellectuels parmi vous? Des professeurs, des médecins, tout ça. Hein? Maintenant que le pays va mieux, on a besoin de votre service. Il y a plein de gens qui se sont. Mais qui c'est qui n'a pas envie de rentrer chez soi? Mais moi, je ne me suis jamais avancée parce que j'ai dit, tu as tué les miens. Ne compte pas sur moi de mettre ma capacité à ton service. Je préfère rester à la rizière que d'aller travailler avec ces gens-là. Voyez? Donc c'est la colère, la haine qui m'a tenue, cette idée-là de tu n'es pas de la même humanité que moi. Voilà. Et vous savez, dans des moments extrêmes, il ne faut pas penser que c'est le raisonnement philosophique, théologique ou moral. Même la morale ne peut plus tenir. Ne peut plus tenir, c'est trop dur. C'est notre être profond qui va tenir. Et cet être profond en moi, c'est une grande fierté. de ne pas me mélanger avec ces gens que je méprise. Et je crois que c'est parce que cette volonté de me tenir toujours debout et de crier, d'insulter ce Dieu, ce qui fait que je l'ai rencontré, qu'il est venu. Si j'ai analysé, voilà.